Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Des dizaines de bouquets déposés devant les grilles du palais de Buckingham. La Grande-Bretagne est en deuil ce vendredi. La famille royale a annoncé à la mi-journée la mort du prince Philippe. Le duc d'Édimbourg, époux de la reine Élisabeth II, s'est éteint à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Une figure très respectée qui a su se plier aux exigences de la monarchie britannique. Retour sur celui que la reine Élisabeth appelait son roc, avec notre correspondant à Londres, Jean Jaffré.
C'est une vie extraordinaire que celle du prince Philippe. Né dans la famille royale grecque, forcé de partir en exil quand il avait un an, en 1922. Après des séjours dans plusieurs pays, il s'installera en Angleterre, où il est aidé par son oncle, Lord Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes et cousin de la reine Élisabeth. Le jeune prince Philippe s'engagea dans la Royal Navy, où il s'illustra notamment lors du débarquement des Alliés en Sicile. La princesse Élisabeth tomba amoureuse du séduisant prince des Argentés quand elle avait 15 ans, et ils se marièrent en 1948. Cependant, la mort prématurée de George VI en 1952 l'a obligé à renoncer à la carrière militaire. Pendant plus de 70 ans, le duc d'Édimbourg a tenu impeccablement et avec discrétion son rôle de prince consort et il est crédité d'avoir adapté le rôle de la famille royale, la firme, comme il disait, au changement de la société dans la seconde moitié du XXe siècle. De nombreuses personnalités interviewées soulignent son importante contribution au service de la nation à la tête de centaines d'organisations charitables et d'associations, notamment en faveur des jeunes, dans l'ingénierie et pour l'environnement. Il s'était complètement retiré de la vie publique il y a seulement 3 ans. Les dispositions préparées pour ses obsèques vont être révisées afin de tenir compte de l'épidémie de la Covid-19. De Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
Et les hommages ont fleuri pour saluer la mémoire du prince Philippe. Je me joins au reste du Royaume-Uni et du Commonwealth pour pleurer la perte de son Altesse royale, le prince Philippe, a commenté l'archevêque de Canterbury, Mgr Justin Welby. Et je remercie Dieu pour sa vie extraordinaire de service dévoué, son soutien indéfectible et sa loyauté sans faille à Sa Majesté la Reine pendant 73 ans. L'archevêque de Westminster, le cardinal Vincent Nichols, a lui fait part de ses prières pour la reine et la famille royale. Combien la présence et le caractère du prince Philippe, si plein de vie et de vigueur, nous manqueront, a-t-il écrit sur Twitter. Une personnalité saluée aussi bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Le prince Philippe restera très regretté en Israël et dans le monde, a tweeté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le chef du gouvernement indien a lui salué une carrière remarquable. La chancelière allemande Angela Merkel a fait part de sa grande peine. Les obsèques du prince Philippe seront célébrées en petit comité, en raison des contraintes sanitaires, mais aussi de la volonté du prince défunt. Le gouvernement britannique a réitéré aujourd'hui son appel au calme après de nouveaux affrontements entre émeutiers et la police en Irlande du Nord. Depuis une semaine, Belfast et d'autres villes de la province sont secouées par de violents affrontements entre des jeunes et la police. Des violences qui opposent des unionistes protestants républicains des quartiers catholiques et qui font craindre le retour des années noires de la guerre civile. L'Iran a libéré ce vendredi un pétrolier battant pavillon sud-coréen. Le navire avait été saisi au mois de janvier par les gardiens de la révolution alors que Téhéran pressait Séoul de débloquer plusieurs milliards d'euros gelés en raison des sanctions américaines. L'Iran était l'un des principaux fournisseurs de pétrole de la Corée du Sud jusqu'à ce que Séoul cesse ses achats en 2018 sous pression de la présidence américaine de Donald Trump. Alors que la répression ne cesse pas en Birmanie, plus de 600 morts à ce jour. L'émissaire spécial de l'ONU pour le pays est attendu dans la région ces prochaines heures. Une visite qui doit la mener en Thaïlande et en Chine, mais pas sur le sol birman, la junte militaire refusant de l'accueillir. On ne connaît encore pas les détails de cette tournée asiatique. Sachez que l'ONG, l'aide à l'église en détresse, appelle à prier pour que cesse la violence dans le pays et prévale l'esprit de réconciliation. Face à la situation d'insécurité et au massacre qui continue à se produire dans l'est de la République démocratique du Congo, les évêques du pays ont diffusé hier un message intitulé « Arrêtez de tuer vos frères ». Ils y interpellent avec vigueur les autorités, la population congolaise et la communauté internationale en suppliant tous les acteurs du conflit de sortir de ce cycle infernal de la violence, une violence qui a fait des milliers de morts dans une certaine indifférence du reste du monde. Cyprien Viette revient sur ce message.
« Le sang de ton frère crie vers moi du sol. » Cette citation du livre de la Genèse mise en exergue de ce message du comité permanent de la CENCO donne le ton de cette supplication à l'arrêt des violences. Après des visites de délégations épiscopales dans les diocèses de Goma, Butembo, Beni et Bounia, les évêques de RDC ont souhaité attirer l'attention sur ces exactions qui ont fait plus de 6000 morts à Beni depuis 2013 et plus de 2000 à Bounia pour la seule année 2020. On compte également au moins 3 millions de personnes déplacées et environ 7500 personnes kidnappées. Ils dénoncent l'occupation des terres, l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'enrichissement sans cause, l'islamisation de la région au mépris de la liberté religieuse. En détaillant les situations différentes observées selon les territoires, les évêques s'inquiètent de la passivité de la MONUSCO et du manque de fiabilité des forces armées de RDC. La population a le sentiment d'être abandonnée, la faiblesse des institutions judiciaires et l'impunité font que les anciens prisonniers retournent dans le cycle de la violence, faute de réinsertion dans une communauté civilisée, s'inquiètent les évêques, qui demandent une refondation de l'État à tous les niveaux de responsabilité. Ils demandent par ailleurs aux partenaires internationaux de la RDC de s'impliquer pour le renforcement des mécanismes de certification des produits agricoles et miniers qui circulent dans la région et à la mise en place d'espaces de dialogue dans ces communautés meurtries. C'est par l'amour et l'unité que l'on peut vaincre le mal et briser le spectre de la violence, concluent les évêques en invitant à prier pour la paix en RDC.
On votait ce vendredi à Djibouti. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh, 73 ans, est en lice pour un cinquième mandat. Sa réélection ne fait aucun doute puisque son opposant Zakaria Ismaïl Farah, un homme d'affaires récemment engagé en politique, n'a reçu que de très timides soutiens. Carrefour commercial, Djibouti est un verrou stratégique entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Plusieurs pays comme la France ou la Chine y ont des bases militaires. Il est arrivé au pouvoir le 26 novembre 1990 par un coup d'État. Idriss Déby est candidat à un sixième mandat présidentiel au Tchad. Les élections s'y tiennent ce dimanche. L'homme fort du pays et son clan dirigent d'une main de fer cet État enclavé d'Afrique centrale, l'un des plus pauvres du monde. Face à l'absence de perspective, beaucoup rêvent d'alternance. Mais le président Déby s'accroche au pouvoir et n'hésite pas à réprimer par la force les opposants les plus critiques. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a récemment déploré le recours à la force dans le processus électoral. Toutefois, Idriss Déby a su se faire de solides alliés, notamment à l'étranger. Son armée apparaît comme un rempart face aux groupes terroristes. Certains États préfèrent donc le soutenir, quoi qu'il en coûte. L'analyse de Roland Marchal, chercheur au CNRS, où il étudie les conflits dans la Corne de l'Afrique et en Afrique centrale.
Dans un premier temps, on annoncera un score honorable, disons au-dessus de 60%, et éventuellement, en confirmant la victoire d'Idriss Déby, on diminuera un peu ce pourcentage pour tomber à 55%, pour montrer qu'évidemment, il a une opposition, mais qu'il reste quand même élu par une grande partie de la population.
À quoi ressemble l'opposition au Tchad ?
Elle ressemble à l'opposition dans un pays qui vit sous un régime autoritaire depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que d'un point de vue politique, il y a des divisions, une multiplicité de partis politiques avec certains qui sont dans l'opposition pour pouvoir revenir et être cooptés dans la majorité présidentielle, d'autres de la majorité présidentielle qui peut-être vont connaître des jours amers dans l'opposition, une opposition aussi de certains partis et de certains hommes politiques qui n'ont cessé d'être constants dans leur hostilité au régime d'Idriss Déby. Alors ça, c'est ce qui est organisé, ce qu'on voit. Et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose de beaucoup plus difficile à mesurer, qui est de temps en temps des mouvements sociaux, des révoltes, des manifestations qui ont tout d'un coup un nombre assez important et qui s'expriment en défiance absolue vis-à-vis du régime actuel, notamment évidemment la jeunesse.
Oui, d'autant plus que la constitution avait été modifiée il y a quelques années et donc Idriss Déby pourrait se maintenir au pouvoir encore longtemps. Est-ce qu'il y a quand même un risque d'explosion finalement ?
Idriss Déby tient bien sa barque puisque d'une certaine façon il a construit un appareil militaire surdimensionné qui lui vaut l'estime de ses alliés occidentaux, la France et les États-Unis, et puis Israël aussi, et qui en même temps veille au grain en interne. Donc, vu l'argent qu'il dépense pour maintenir ça, il peut durer. Mais le problème, c'est évidemment que se passera-t-il le jour où lui-même disparaîtra ? Parce que là, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la capacité de suivre les règles constitutionnelles, et surtout d'organiser une transition légale et surtout pacifique. On pense qu'il y aura très rapidement des affrontements au sein de ce qui fait lieu de garde présidentielle, voire de l'armée, et il y aura des troubles assez importants. Encore une fois, c'est la population civile qui va payer.
Roland Marchal, spécialiste de l'Afrique, était interrogé par Adélaïde Patrignani. c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite une excellente soirée.